Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
h 34 dans le bureau de Par Jupiter.
Oh bah c'est pas possible, c'est bordel ce monde.
Salut Hippo, tu cherches des sujets pour l'émission?
Bah oui, oui. Ah. Écoute Charline, voilà comment je vois les choses. Je te propose un édito un peu coup de poing, un peu de gauche quoi.
Ah, alors déjà, est-ce que tu veux juste que je t'explique un peu comment ça va se passer?
Non, mais ça j'ai pas besoin ça.
Ah ouais, bah, t'écoutes l'émission, en dehors de tes chroniques t'écoutes un
mais,
peu.
Mais bien sûr, j'écoute, t'inquiète pas Charline, tu peux te reposer sur moi.
Ah bah super Hippo, alors écoute, je te propose déjà qu'on cherche un sujet politique.
Mais tout est politique Charline. D'ailleurs, je te propose un petit truc de gauche.
Enfin, il faut quand même qu'on cherche des sujets pour l'invité.
Bon, c'est en troublé ma chère. J'ai pensé qu'il fallait revenir aux fondamentaux, le marxisme.
Ah, bah, écoute, ça tombe bien parce qu'on reçoit un philosophe sociologue plutôt de gauche, Geoffroy de la Ganerie.
Très bien ça, justement, moi j'ai pensé un petit truc.
De gauche, oui, je sais. Bon, alors, et pour le journal de 17h17, alors
Ah, il y a un journal.
Oui, il faudrait qu'on réfléchisse à la séquence de fin aussi.
Ah, la fin du monde.
Bon, écoute, on reprend. La conf de rédac, on y est, les sujets, ça avance, les extraits de films, le journal, le Parjupi Proust.
Attends, il y a tout ça dans l'émission?
Oui, alors tu sais, ça s'appelle Par Jupiter, et c'est tous les jours à 17h sur France Inter. Hein.
Ah, Jupiter, mais c'est par rapport à Macron. C'est malin, ça.
15h30, dans le bureau de Par Jupiter.
Très bonne idée ça, Charline, un faux journal et avec des vraies nouvelles, mais c'est brillant.
Oui, en tout cas, merci Hippo pour ton aide, parce que là, c'est vraiment précieux. Hein, c'est...
16h58, dans le studio de Par Jupiter, juste avant l'émission.
Oh, et tu fais réagir l'invité sur l'actualité. Mais c'est incroyable cette idée, Charline. C'est un bon concept, mais continue vraiment, t'es la meilleure. Ah, et puis, si t'as besoin, moi j'ai un petit truc de gauche qui correspond tout à fait à l'esprit d'émission. Parce que moi, j'ai compris l'idée, évidemment. C'est intelligent, c'est malin.
Mais tu pars où, Hippo, là? Mais qu'est-ce qu'il fournait à l'antenne dans 2 minutes?
C'est fantastique cette histoire! C'est fantastique!
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up radiophonique dont voici la devise du jour, la jeune pousse est toujours plus verte ailleurs. Et voici les 3 sujets. Attention, concentrez-vous. Dont le premier a été confié à Hippolyte.
Leur logo est un sablier à l'intérieur du cercle de la Terre, peint en noir pour symboliser l'urgence d'agir face à la crise climatique. Pour réveiller l'opinion publique, le mouvement Extinction Rebellion veut perturber l'espace public. Blocage des ponts, sit-in sur les routes, tout ça dans un esprit non violent. Jusqu'à quand?
Non violence, persuasion, grâce.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue dans la grâce?
La classe moyenne se sent doucement dévissée. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est devenu un constat de l'IFOP. Fin de mois difficile, rogner sur les loisirs, mais se jeter sur les promos discount. Mais à quoi correspond la classe moyenne, qui sont ces gens du milieu qui sont en train de décrocher?
Non seulement vous êtes riche, mais encore vous voulez qu'on vous aime comme si vous étiez pauvre. Et les pauvres alors?
Quand la batterie de notre téléphone est faible, c'est l'angoisse. Quand elle est pleine, un champ des possibles s'ouvre à nous. Et puisque Uber est capable de détecter notre niveau de batterie, il sait aussi que vous êtes prêt à payer plus cher avant que cette batterie ne vous lâche.
Oh, monde de merde.
Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.
Et on doit le casting de cette émission aujourd'hui à Hippolyte Girardot.
Eh oui. Eh bien, cette fois encore, une belle équipe. 17h20, brillant, sapé comme un dandy, côtoyant les plus grandes stars mondiales, cet homme remarquable a recommencé à fumer le jour où le trac l'a envahi, alors qu'il s'apprêtait à jouer une fois encore son spectacle s'intitulant « Arrêtez de fumer, tue ». Cher Thomas Bidguin, qu'allez-vous recommencer à nous fumer aujourd'hui?
Eh bien, cher Hippo, je vais vous parler de nostalgie.
Le nostalgie,
ça va encore être magnifique.
Un peu plus tard, admettons que le bonheur existe, qu'enfin nous vivions dans un espace politique où l'expression de la dissidence soit déjà inscrite dans le système et en un sens programmée par lui, que ferait-on alors? Les lanceurs d'alerte et ici de Guillaume Meurice. Hein?
Oh, c'est beau.
Tu m'as écouté un peu?
Ouais,
cher Guillaume.
Il n'a pas tout compris. Hein,
ça m'a rendu les poils.
Bah non, j'ai un peu cité les choses de notre invité. Bref, cher Guillaume, qu'allez-vous aujourd'hui nous fûter?
Eh bien, figurez-vous que je suis allé au meeting de Marcel Campion, candidat à la mairie de Paris 2020, et il n'a rien perdu de son enthousiasme ni de sa subtilité.
Déjà, faut nettoyer Paris parce que c'est un tas de merde.
Allez, chauffe Marcel, tout à l'heure.
Parfait. Et enfin, pour finir cette belle équipe brillante, sapée comme une lady, côtoyant les plus grands écrivains de Paris, cette femme remarquable a réussi à se faire haïr dès sa première intervention sur la matinale de France Inter pour son interview jugée rétrograde par les féministes. Chère Clara, qu'allez-vous aujourd'hui nous clarifier?
De révolte. Ah, très bien. Et voici celui qui va occuper notre open space, hashtag Occupy Espace Ouvert. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Geoffroy de la Gannerie.
Mais yes.
Lui, France Inter, Charline Vanhoenacker, Hippolyte Girardot.
Geoffroy de la Gannerie, bienvenue dans cette émission. Vous êtes philosophe et sociologue et vous publiez La conscience politique, c'est paru chez Fayard dans la collection Avenir, où vous nous expliquez que les politiques nous racontent des histoires. Bon, ça on s'en doutait un peu, mais vous le confirmez. Mais comme on utilise les mêmes mots que les leurs, nous aussi, on se raconte des histoires, oui. Et on s'y complaît. Vous donnez l'exemple des mots « peuple », « volonté populaire » ou « souveraineté populaire » qui ne veulent rien dire, qui sont des abstractions. Et vous dites d'ailleurs, à chaque fois qu'on dit « nous sommes le peuple », c'est toujours une minorité qui s'exprime. Oui. Votre constat de départ, c'est que donc ni les politiques ni les citoyens ne parlent de la réalité objective, de la perception, etc. On ne fait que reproduire le vocabulaire des discours officiels, dans le fond. Ça veut dire que tout le contenu de nos débats, nos discussions dans les médias, dans nos discussions entre nous, etc., dans les universités et tout, ça n'est qu'une mythologie ?
Oui, moi je pense ça. Je pense que l'une des choses que j'essaie de produire, c'est que ça part d'un sentiment personnel, ce livre, qui est qu'à chaque fois que ça parle politique ou que les gens parlent de politique, ils emploient des catégories qui ne veulent rien dire et qui ne résistent pas à la moindre analyse minimalement sociologique du monde. On le voit très bien, par exemple, les soirs d'élection, on va avoir les gens qui vont dire « les Français ont voté ». Aujourd'hui, les Français ont élu Macron. Et moi, je suis toujours derrière mon poste, je me dis « non mais quoi, moi j'ai pas, je suis Français, j'ai pas voté pour Macron, ou alors je me suis pas déplacé, ou alors j'étais une minorité. Ceux qui ont voté Macron, c'est une minorité d'une minorité d'une minorité de gens qui ont réussi à accaparer l'appareil d'État pour imposer leur volonté. Et pourtant, on va dire c'est les Français qui ont voté ou le pouvoir politique est fondé sur l'expression de la souveraineté populaire, alors que ça n'a évidemment aucun sens par rapport à la réalité des opérations électorales. Et de l'autre côté, quand on a des mouvements sociaux qui vont se développer, c'est eux qui vont dire, au lieu de casser ces catégories, ils vont dire, ben non, mais eux c'est l'oligarchie, eux c'est pas la représentation normale, c'est nous le peuple, c'est nous la souveraineté populaire. Et comme je le dis, moi j'avais remarqué ça au moment de Nuit Debout, on était 500 sur une place, et puis il suffisait de traverser la place pour voir des gens qui étaient totalement indifférents à ce qu'on faisait, qui étaient souvent même pas au courant, ou alors pas d'accord, ou je sais pas. Et donc il y avait un écart total entre les catégories du discours politique et la réalité des opérations politiques. Et je me rends compte que dans la théorie politique, c'est-à-dire chez les philosophes, chez les sociologues qui normalement pour fonction de déconstruire le langage commun, qui ont pour fonction de le mettre en question, vous avez ces mêmes formes de pensée mythologique depuis le contrat social, qui est peut-être qu'on apprend tous au lycée, voilà, alors on se fonde, on se met tous d'accord pour créer des lois, on s'accorde, etc., Rousseau, Hobbes, etc. Et moi je me suis toujours dit, mais paradoxalement, l'une des seules formes au monde qui nous est totalement imposée, c'est l'appartenance à l'État. Nous n'avons pas choisi de naître, nous n'avons pas choisi de naître dans une nationalité, puis un jour l'État nous a envoyé des papiers et a dit tu m'appartiens, et non seulement tu m'appartiens, mais t'as pas le droit de partir. Et donc, paradoxalement, l'appartenance politique est peut-être l'une des seules choses de notre vie qu'on choisit pas. Et pourtant, la théorie politique dit que c'est un choix, que c'est par un contrat. Donc, pourquoi est-ce qu'en permanence, quand on parle politique, on emploie des catégories qui ne veulent rien dire? C'est un peu le point de départ du livre. Et à partir de ce moment-là, de reconstruire tout un nouveau discours beaucoup plus oppositionnel et radical sur ce que ça veut dire être un être politique.
Radical, en effet, parce que vous dites, alors, dans le comment faire, parce que vous voulez nous débarrasser de tout ça et inventer autre chose.
Oui.
Je vous cite, mais alors, on a plus ou moins poser le contexte, mais vous dites qu'il faut repenser la politique et les lois en fonction des plus faibles aussi, et d'inverser les choses. Et donc vous dites qu'il faut accepter de dire de l'État, non pas qu'il condamne à mort, mais qu'il assassine, non pas qu'il arrête des individus, mais qu'il les enlève, non pas qu'il les emprisonne, mais qu'il les séquestre, non pas qu'il leur inflige des amendes, mais qu'il les dépouille, non pas qu'il les perquisitionne, mais qu'il les cambriole.
Oui, effectivement.
Vous voulez changer de point de vue.
En fait, il y a un étatisme symbolique qui est très fort dans notre pensée, qui consiste à penser toujours que quand l'État agit, il fait autre chose que ce qu'il fait. Et en fait, l'État, c'est l'instance qui se donne le pouvoir, enfin, donc les gens dans l'État, qui se donnent le pouvoir de faire des choses qu'ils interdisent aux autres. Donc par exemple, voler est quelque chose qui n'est pas interdit. En France, c'est permis si jamais c'est l'État qui se donne le pouvoir de le faire par le droit. Cambrioler quelqu'un n'est pas interdit, mais la police a le droit de le faire et la police cambriole tous les jours. Et en fait, notre vocabulaire qui ne veut pas reconnaître que quand la BAC, par exemple, pénètre chez vous, c'est aussi violent que si c'est un gang, que si c'est un voisin bruyant, etc., elle a pour tendance de nous faire croire que l'État est une instance rationnelle ou une instance que nous voudrions.
Mais il y a une volonté de nuire, vous voulez dire ? Parce que quand quelqu'un, quand c'est pas l'État qui rentre chez nous, il y a quand même une volonté de nuire. Vous pensez aussi que l'État, quand il rentre, il y a une volonté de nuire?
Bien sûr, il y a une volonté de nuire à partir de ce moment-là où les gens qui occupent l'appareil d'État se disent qu'ils sont fondés à exercer un certain type de violence sur les individus, soit pour les arrêter, soit pour les dépouiller, soit pour les mettre en prison, soit pour stopper un cycle de violence. Après, moi, quand je dis ça, c'est pas nécessairement un propos anarchiste. Et moi, je ne suis pas anarchiste et je n'ai jamais été anarchiste. Par contre, ce que je dis, c'est que le problème de la théorie politique, c'est qu'on ment sur la vérité de ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, on va utiliser des mots qui vont neutraliser la vérité de la violence qu'on va exercer sur autrui lorsqu'on on accapare l'appareil d'État, et que si jamais on veut construire et accaparer l'appareil d'État, ce qui je pense est la fonction de la gauche, eh ben il faut aussi être honnête avec nous-mêmes qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. Et je dis dans le livre qu'en fait la théorie politique, elle met toujours au centre du problème l'intersubjectivité ou le fait qu'on serait tous d'accord, ou le fait qu'on fait un contrat social, alors qu'en fait l'endroit où se joue la théorie politique, c'est tous les jours, c'est l'arrestation, c'est le fait de quelqu'un qui ne veut pas et qui malgré lui est soumis à un pouvoir qu'il ne reconnaît pas.
Et c'est là qu'on devient un sujet politique en réalité. C'est là qu'on éprouve la politique.
Ouais, on éprouve la politique dans l'arrestation. En fait, il y a une très belle formule de James Baldwin qui dit que si on veut penser la justice dans une société, il faut pas demander aux juges, il faut pas demander aux avocats, il faut pas demander aux justices, il faut demander aux portoricains, il faut demander aux noirs, il faut demander aux clochards en prison. C'est lui qui peut vous dire s'il y a un concept de justice dans une société. Et moi, je dis pareil, si on veut comprendre comment fonctionne la politique, il faut pas demander aux ministres de la justice, il faut pas demander au président de la République, il faut pas demander au directeur de l'Assemblée nationale, il faut demander aux prisonniers, il faut demander à l'anarchiste, il faut demander à la personne qui est confrontée malgré lui de vivre dans un monde qu'il ne veut pas et dans lequel il étouffe.
Et voilà comment vous repensez la politique dans cet ouvrage, La conscience politique, paru chez Fayard, Geoffroy de la Gagnerie. Hippolyte, faut, on va y aller, on va s'accrocher. Hein.
Ah ouais, ouais, faut y aller, parce que les phrases, elles commencent là-bas, puis elles font tout le truc.
Non, rassurez-vous, rassurez-vous, c'est clair. Si c'était pas clair, on serait intervenu.
Tout à fait.
Travaillez plus, gagnez plus, vous aurez moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, vous aurez moins d'argent.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Moi, ce que j'aime, c'est glander. Quand je glande, faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs, je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça vous le sudait.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Et si un jour, un beau matin, je dois m'en aller au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République de la Glande. Travailler sera interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque. Ce sera un pays sans banque. Et tant qu'ils sourront à moi joint, je n'aurai plus qu'à lever la main. Je ne travaillerai jamais debout. Pensez pas me faire bosser assis, encore moins me faire taper à genoux. Je ne travaillerai plus du tout. Finalement, je ne travaille pas, papa. Je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste là à vivoter au soleil sans me préoccuper. Au soleil sans me préoccuper. Au soleil sans me préoccuper.
J'aime pas travailler.
Oh, oui.
C'est pas moi, c'est Maracas de Fris.
Mais...
Vous écoutez France Inter, nous recevons Geoffroy de la Gagnerie qui publie La conscience politique, c'est paru chez Fayard, collection Avenir. Il est philosophe et sociologue. Et pour l'entourer, Hippolyte Girardot.
Eh bien, par ordre d'entrée en scène, Thomas Bidguin, Guillaume Maurice, et enfin, si l'invité nous en laisse le temps, Clara Dupont-Moretti.
Voilà. Et tiens, si on repensait aussi l'information, qu'on utilisait
ça.
Peut-être d'autres mots que la doxa journalistique.
Mais bien évidemment.
À quoi vous pensez sur cette photo-là?
Vous avez 20 ans.
Puis cette coiffure.
Le coiffeur est en liberté encore?
Ça doit être son héritier qui s'occupe de Trump et de Johnson.
Le journal de presque 17h17.
Oh, c'est pas bien du tout de rigoler avec ces choses-là. Non mais pardon.
Et on commence par les titres.
Oui, on évoquera l'hommage rendu aux disparus.
Oui, suite à l'attaque au couteau.
Non. Hein, on parlera de François Hollande.
Ah, d'accord.
Oui, on parlera aussi, bien évidemment, du drame.
Oui, là, donc là, l'attaque au couteau.
Non, je parlais de l'interview de BHL ce matin.
Ah,
ouais,
oui,
dans la matinale.
Bah, bien sûr, ouais, oui.
Il sera question également de la terrible loi des séries.
Oui, donc là, l'attentat qui
Non, on va parler des tennismen français.
Ah, oui, d'accord, pardon. Ah,
ça. Suivez un peu. Et on commence donc avec la politique.
Oui, dans une interview accordée au Figaro, Bernard Cazeneuve assure n'avoir aucune ambition pour 2022.
Aucune ambition, donc aucun doute, il est toujours socialiste.
Politique toujours, un projet de loi examiné au Sénat permettra d'autoriser les maires à fermer les bars trop bruyants.
Et on vient de l'apprendre, le GIGN vient d'interpeller Jean Lassalle qui tentait de se faire sauter dans l'hémicycle avec un cocktail Molotov au Pinot des Charentes.
Ce matin, un incendie a eu lieu dans un entrepôt de batteries à Villeurbanne.
Sibeth Ndiaye aurait déclaré, je cite, « cette petite fumée de batterie au lithium est très bonne pour les poumons. J'en fais des grogues d'ailleurs en fumant du charbon avec mes enfants. »
Quant à François Hollande, il va publier un livre d'entretien sur la crise démocratique.
Attends, François Hollande, c'est bien celui qui a utilisé 6 fois le 49.3 pour faire passer les lois en force ?
Bah ouais.
Voilà,
ouais.
Donc il participera également au grand festival Foutage de gueule sans frontières.
Et en parlant de foutage de gueule sans frontières, ce matin, Bernard-Henri Lévy était invité à la matinale de France Inter. Elias Salamé l'a interrogé sur la situation des Kurdes.
Moi, j'ai eu j'ai passé la nuit à avoir des conversations avec des amis kurdes sur le terrain.
Quelle vie, mais quelle vie, mes amis.
Pendant que vous bavez sur votre oreiller, il change le monde avec son forfait super-héros.
Cœur avec ton ego, Bernard.
Ouais, gros cœur, donc. Énorme cœur.
Consommation toujours, Nutella ne diffusera plus de publicité avant les émissions d'Éric Zemmour.
Et non, inciter les gens à manger de la merde 2 fois de suite, ça faisait trop.
Sans transition aucune, la semaine du goût a commencé hier dans les écoles.
Oui, l'occasion pour Jean-Luc Lahaye de faire goûter...
Non, on enchaîne.
Non, d'accord.
Oui, d'accord.
Okay, on enchaîne.
Allez, Morbihan, la fête du slip prévue le 16 novembre se prépare avec une guirlande de 16 mètres de slip déjà cousu.
Bel hommage à la carrière de Patrick Bruel.
Sport à présent.
Oui, pardon. C'est vrai que Clara qui rigole me fait toujours rigoler. Alors avec le tennisman français, c'est important, le tennisman français Benoît Paire, qui a eu quelques soucis face à son adversaire lors d'un tournoi international. On l'écoute juste après un échange perdu.
J'en peux plus!
Ah là, il n'en peut plus, il veut rentrer chez lui. Contrairement aux autres tennismen français qui veulent rentrer en Suisse.
Effectivement. Et enfin, selon une étude, l'eau ne serait pas la boisson la plus hydratante.
Ouais, on salue les travaux de l'Institut Gérard Depardieu.
Merci Guillaume Meurice. Nous sommes de retour pour repenser la politique avec le philosophe et sociologue Geoffroy de la Gannerie. Hippolyte Girardot, vous avez choisi le premier sujet.
Alors, Extinction Rebellion, XR pour les intimes, est partie d'un mouvement anglais, Rising Up, qui défend, je cite, « un changement fondamental du système économique et politique afin de maximiser le bien-être et de minimiser la souffrance ». Rien que ça. Alors, il s'inspire de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains et de Mahatma Gandhi en Inde. Occupation des ponts, blocage des rues, déversement de faux sang devant la résidence du Premier ministre anglais. Leurs actions se veulent radicales, non violentes, à visage découvert. Une de ses membres dit... On désobéit parce qu'on n'a plus le choix. Ah bon ?
Viens par ici.
Quoi ?
Sébastien, pourquoi tu fais ça ?
Par solidarité.
Non, tu ferais mieux de t'occuper de toi au lieu de vouloir sauver le monde. Tu crois moi, il y a du boulot. Regarde-toi, incapable d'avoir un vrai métier.
Oh, je l'attendais, le coup du vrai métier.
Bah, moi, à ton âge, j'avais...
Pour mes choses, ça ? Laissez-les là.
À ton âge, j'avais déjà ouvert mon cabinet dentaire.
Non, mais tu comprends pas que la dernière chose qui me ferait rêver, c'est de te ressembler ? T'es à toi tout seul un poste avancé dans l'impérialisme de l'individualisme.
Quoi ?
T'es égoïste.
Égoïste ? Moi, égoïste.
Eh oui, vous avez reconnu Christian Clavier, accompagné de Sébastien Castro, dans Une heure de tranquillité, un film de Patrice Lecomte. Oui, donc vous avez écrit, en fait, moi ça m'intéressait, parce que vous avez écrit sur Nuit debout, vous en avez parlé tout à l'heure, vous en avez montré les limites, pour faire court, disons, et... On aurait bien aimé, je pense, hein, globalement, nous ensemble, en discutant, tout ça, connaître votre opinion sur ce mouvement. Après Nuit debout, pont occupé, c'est possible ?
Alors moi, je salue beaucoup les actions d'Extinction Rebellion. Je pense que c'est un mouvement très important pour deux enjeux. D'abord, que c'est un mouvement très inventif en termes de mode d'action et qu'il est important, si on veut prendre par surprise le système, de faire des choses inattendues, comme occuper la place du Châtelet, comme occuper un centre commercial. Que c'est un mouvement international, c'est-à-dire qui se fonde sur des bases non pas nationales de souveraineté, mais sur une base de conscience politique internationale et qui dépasse les frontières. Et sur le climat, il est tout à fait certain qu'aujourd'hui, il faut dépenser une pensée internationaliste. Mais moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus, disruptif. Forcément, que le culte de la non-violence me paraît parfois un peu poli par rapport au système. Et il y a un très beau texte de Günther Anders, qui est un philosophe allemand, qui dit que dans la crise écologique dans laquelle on vit aujourd'hui, la seule chose que comprennent ceux qui nous menacent physiquement, c'est souvent la menace, et qu'il faut peut-être repenser une problématique de la violence aujourd'hui. Mais ce qui m'a semblé très très important dans ce qu'ils ont fait, moi, à Italie 2, c'est le fait qu'ils ont fait une occupation du centre commercial avec des gilets jaunes et avec le comité Adama, par exemple, qui était présent dans l'organisation. Et ça, je pense que c'était très important. Assa Traoré l'a pris la parole parce que ça connecte la problématique climatique sur une problématique aussi de classe, d'exploitation, de domination, que tout le monde ne souffre pas pareil du climat, que la problématique de la pollution touche d'abord les classes populaires, d'abord les ouvriers, d'abord les femmes, etc., les fractions reléguées du monde, etc., et que par conséquent, il y a une tendance, moi, qui me semble très dangereuse dans la lutte climatique, qui est de reconstituer des catégories un peu collectives, du genre, il y a l'humanité qui sera en péril, le climat est un bien commun. Alors en fait, le climat n'est pas un bien commun et c'est pas l'humanité qui est en péril. Le climat, c'est une donnée dans laquelle se servent des nations ou des classes pour conserver des privilèges ou pour accentuer des souffrances d'un certain nombre d'individus. Et donc, on ne peut faire une lutte climatique aujourd'hui que si elle est articulée à une pensée de l'exploitation, à une pensée de la domination, à une pensée des classes sociales, une pensée raciale, etc. Et je pense que, en faisant cette intelligence de faire une alliance avec les Gilets jaunes, avec le comité Adama, ils ont produit un mouvement climatique beaucoup plus politisé, c'est-à-dire beaucoup plus fort, en connectant la question climatique sur une question de fracture de classe.
Est-ce que vous ne croyez pas que justement le fait de s'associer, entre guillemets, fasse que ce qui agglomère tout le monde, c'est aussi parce que c'est non violent, que ce sont des occupations très symboliques, comme ça, très visibles même, puisque les images sont en général beaucoup plus fortes que les mots, globalement, dans notre société. Est-ce que justement, commencer, entre guillemets, à mélanger, ça ne va pas finalement réduire ce mouvement à n'importe quel autre, c'est-à-dire que finalement le banaliser d'une certaine façon. Est-ce que la force de ce mouvement va pas tout simplement s'effriter de cette façon?
Moi, je pense pas. Je pense que la force d'un mouvement, c'est quand il est vrai. Et le problème des catégories politiques, c'est souvent qu'elles sont fausses. Donc si jamais on fait un mouvement climatique qui est fondé sur des catégories abstraites qui n'ont aucun sens, comme s'il y a beaucoup de restauration aujourd'hui de ça dans la pensée écologiste, alors effectivement on fait un mouvement qui est faible. Si au contraire on essaye de montrer comment la question écologique ne peut pas être pensée sans les quartiers populaires, sans la problématique des banlieues, sans la problématique des classes sociales, sans les problématiques des conditions de travail, à ce moment-là on donne la possibilité à beaucoup de gens qui peuvent se penser un peu loin des problématiques écologiques parce qu'ils ont d'autres urgences dans leur vie, à penser qu'au contraire ça fait partie de leur vie de poser la question climatique, et donc ça permet d'en faire un mouvement où beaucoup plus de gens se reconnaissent dedans et vont s'investir dans ce mouvement.
Clara Dupont-Mono.
Il y a un sociologue qui dit « Le fait de rester dans la non-violence permet de conserver l'assentiment d'une large partie de la population. » Mais vous ne semblez pas être complètement d'accord. Vous dites que si on reste dans la non-violence, ça risque de rester un peu tiède, il faut passer à un niveau supérieur.
Oui, la non-violence, ça n'existe pas. De toute façon, c'est la dernière partie de mon livre qui est sur la question de la violence. La non-violence, ça n'existe pas. Quand un mouvement se dit non-violent, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il laisse le monopole de la violence à l'État. Donc en fait, d'un point de vue holistique, dire je suis non-violent, c'est dire je reconnais à l'État le droit d'être violent sur moi, le droit de me déloger, le droit de me frapper, le droit de me mettre en prison, mais moi, je me désarme par rapport à la violence d'État. Donc en fait, c'est pas des mouvements qui sont non-violents, c'est des mouvements qui sont favorables à la violence d'État et favorables à la conservation du monopole de la violence par l'État. Donc moi, je pense qu'au contraire, si jamais on veut s'armer par rapport à l'État, recourir à des formes d'action qui sont plus violentes est une chose importante, sachant que la grande problématique politique, c'est de ne pas se faire prendre par la répressive d'État. Et le problème d'un mouvement comme ça, c'est qu'il est un peu civil, étant un peu docile, il fait tout à visage découvert, il fait tout en apparaissant, ce qui fait que la répression peut être forte. Et moi, je pense qu'on prend le système beaucoup plus fortement si jamais, au contraire, on se masque, si on agit de façon cachée, si on agit de façon dissimulée.
Alors, c'est plus la désobéissance civile, parce que vous expliquez dans votre livre que la désobéissance civile, elle est publique.
Moi, je pense que la désobéissance est un concept. Je critique même l'idée de désobéissance. Ouais. Je pense que, là aussi, c'est une partie du livre, mais je dis que le concept de désobéissance est un concept légitimiste qui fait comme si d'abord nous devrions obéir et ensuite nous désobéissons. Et donc, en fait, paradoxalement, c'est une catégorie qui normalement doit nommer des actions subversives, mais qui en fait nous construit comme sujet soumis à l'État, comme si nous devrions quelque chose à l'État, comme si la loi nous engageait. Mais moi, je vois pas pourquoi la loi, la volonté de Macron qui se fait loi, la volonté de Sarkozy qui se fait loi devrait m'engager. Je ne dois rien à elle. Donc, quand j'agis, je ne désobéis pas. J'affirme ma volonté. Eux affirment leur volonté, et c'est une guerre en fait civile qui se passe eux contre moi. Et si je me définis comme non violent, alors en fait, j'ôte ma capacité de défaire la volonté d'autrui. Il y a un très beau linguiste qui disait que une langue, c'est un dialecte avec une armée. Et moi, je pense qu'une loi, c'est une volonté particulière avec une police, et que si nous voulons imposer notre volonté, nous, nous devons nous doter aussi de notre forme de police.
On a affaire à un philosophe du désordre, hein. Ça, ouais. Vous êtes prévenu. Geoffroy de la Gannerie avec nous, et à vos côtés, Thomas Bidguin.
Ah.
Et oui,
donc, voilà. Oui, donc oui, c'est à moi. Et donc une fois de plus, je reviens. Là, je rentre de Corée du Sud, qui est un très beau pays où le soleil perce parfois à travers le voile de pollution qui fait la fierté de l'industrie locale. Et donc je reviens ému de retrouver Paris, comme dans la chanson de Traînée, revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Oui, c'est toujours émouvant de revoir Paris. Et si ça me fait cet effet là, on imagine l'effet que ça va faire aux djihadistes de revoir Paris une fois que Trump les aura libérés quand il aura lâché les Kurdes. Enfin voilà. Donc je reviens une fois de plus pour parler de storytelling. C'est ça que je fais ici. Je viens parler de tous ces petits éléments chimiques de récit. 5253 tonnes pour être précis, qui une fois brûlés et mélangés forment le grand nuage des histoires inoffensives et rassurantes et qui survolent un à un nos ministères et dont les noires retombées avec leur goût de pneus font flotter les poissons sur le ventre et marcher le monde sur la tête. Storytelling. Et le thème du moment dans le storytelling, il semblerait que ce soit la nostalgie. Enfin, c'est du moins l'impression que j'en avais en lisant la presse depuis l'autre côté du monde. L'écho de notre lointain pays me ramenait en mémoire une vieille histoire. Celle d'un homme qui travaille loin de chez lui. Il a fini sa journée, il est là avec son impère et sa petite mallette. Puis il voit un bar. Alors, il rentre, il va s'asseoir dans un petit coin tranquille, il commande un whisky. Le serveur lui apporte son whisky, il est content, il est là. Et puis tout d'un coup, il y a un whistiti qui passe, qui le regarde, qui trempe ses couilles dans le whisky et qui disparaît d'entre les tables. Alors le mec, forcément, il est un peu décontenancé, il s'en va. Mais 15 jours plus tard, il travaille dans le même coin, il finit sa journée, il passe devant le même bar. Alors il rentre, il va s'asseoir tranquille, il voit le serveur, il lui demande un whisky, le serveur lui apporte un whisky, et là, il y a un whistiti qui surgit de nulle part, peut-être le même, c'est difficile à dire. En tout cas, un whistiti surgit, trempe ses couilles dans le whisky et s'en va et disparaît entre les tables. Alors le gars on peut plus, il va voir le barman, il lui dit excusez-moi, vous êtes au courant qu'il y a un whisky tea chez vous comme ça qui vient tremper ses couilles dans le whisky des gens. Alors, il dit, bah non, c'est la première fois qu'on parle de ce truc, j'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça moi. Mais allez plutôt demander au pianiste, lui ça fait 20 ans qu'il travaille ici, il est peut-être au courant. Alors le type va voir le pianiste, il lui dit excusez-moi monsieur, est-ce que vous connaissez un whistiti qui trempe ses couilles dans le whisky? Et le pianiste lui dit non, mais si vous me sifflez le début, je peux peut-être la retrouver. Tout ça pour vous dire qu'elle est comme ça l'activité du storytelling en France en ce moment. Le discours de Zemmour par exemple, si vous me sifflez le début, je crois que je peux vous retrouver la fin.
Tout ça pour ça.
Eh oui, monsieur. Eh oui, on recule devant rien à la maison, on recule devant aucun sacrifice. Voilà, c'est ça, Zemmour, il dit quoi? Il dit que la France vit sous occupation islamique. Il dit même que les gens n'ont plus le droit de se souhaiter joyeux Noël à cause de l'islam. Alors qu'en fait, je te rassure, Eric, les gens ont toujours le droit de se souhaiter joyeux Noël. C'est juste qu'ils ne te le souhaitent pas à toi. C'est tout. Alors, donc tout est un peu comme ça. Le débat à l'Assemblée sur l'immigration choisie. Voilà, c'est pareil, on a un peu l'impression de l'avoir déjà entendu. Mais c'est vrai qu'on peut pas traiter les réfugiés de la même façon, qu'ils viennent de Syrie ou qu'ils arrivent de Rouen. C'est pas possible. Mais c'est comme ça, le storytelling, là, en ce moment, il a l'air de faire du surplace. La manif contre la PMA, la réforme des retraites, celle de l'audiovisuel public, avec, mieux que téléphone, la reformation de l'ORTF, le bégaiement du ministère de la Santé sur la catastrophe Lubrizol. Tu vois, il suffit de siffler le début et on a déjà l'impression de connaître la fin de toutes ces chansons-là. Et pourtant, il se passe un tas de trucs extraordinaires. On voit les pauvres qui s'allient avec les jeunes, qui bloquent les carrefours, qui montent des barricades, qui trempent leurs couilles dans tous les whiskies de tous les puissants. Et face à eux, la chanson du pouvoir, c'est une vieille rengaine. Et aux USA, c'est pareil. Les whistleblowers, ils peuvent s'époumoner à siffloter. Les whistiti courent toujours. Eh bien voilà, le storytelling montre ses limites quand il en appelle à la nostalgie. On voit ça quand on célèbre Chirac, là en ce moment, là comme dans les films de Claude Sauté, quand on pouvait fumer dans les ascenseurs et mettre des mains au cul dans les restaurants, ou l'inverse d'ailleurs, puisque tout était possible. Chirac et sa clique de malfaisants incarnaient à la fois le monde moderne et la nostalgie du gaullisme. Et nous, pendant ce temps-là, Hippo s'en souvient, on écrivait sur les murs « Nos futurs ». Eh ben, c'est malheureux à dire, mais c'est nous qui avions raison. Et voilà, pas les adultes. La nostalgie, c'est un truc de vieux. C'est quand on a perdu son chien qu'on se met à le chercher. Et voilà, pourtant, place du Châtelet, la jeunesse pourrait siffloter la chanson de traînée pour nous apprendre qu'on peut être à la fois du bon côté de la nostalgie et de celle des barricades. La fin de la chanson de traînée, elle dit « Revoir Paris ». Bonjour l'automne vermeil, je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Je suis un petit français, rien qu'un enfant, tout simplement.
Thomas Bideguin. Merci Thomas. On va se la raconter cette histoire de Ouistiti qui se trempe les couilles dans le whisky, oui, je pense.
Merci.
Elle va faire le tour.
Merci,
le
madame.
Tour de toute la France Inter. Merci Thomas Bideguin. Nous sommes en compagnie de Geoffroy de la Gannerie. On parle de conscience politique, on repense la politique ensemble. On va parler classe moyenne. Et vous écoutez Michael Kiwanuka, You Ain't the Problem, sur France Inter.
What makes you blind? I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know if you come along. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling. I hear you calling, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key. Break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Ain't the problem.
Jupiter, vous écoutez France Inter. Le philosophe et sociologue Geoffroy de la Gannerie est en notre compagnie. Il publie La conscience politique chez Fayard. Paraît aussi ces jours-ci en poche L'art de la révolte. Snowden, Manning, Assange. Et Clara Dupont-Monod va nous en parler dans quelques instants. Geoffroy, parmi nous, il y a également Guillaume Meurice, oui. Dans une certaine forme de radicalité objective, j'ai presque envie de dire.
On peut dire ça. Mais
je vous dirai après.
Je vais vous parler bagarre aujourd'hui, la bagarre pour la mairie de Paris qui continue avec toujours ce beau casting. Cédric Villani hein, qui s'entraîne en buvant du sang de corbeau tous les matins. On a Benjamin Griveaux qui est au charisme, ce que Benjamin Griveaux est à la politique. Hein, c'est pas dingue. D'ailleurs, je conseille aux scientifiques qui déclarent que le vide absolu n'existe pas d'écouter un discours de Benjamin Griveaux. On a également Anne Hidalgo, la championne de photo Vélib. Hein, c'est le sport qui consiste à faire du Vélib devant les photographes. C'est la meilleure, très très forte. Mais on oublie un petit peu vite Marcel Campion,
ah oui.
Le chef des forains, le Don Corleone de la barbe à papa. Et ben, je suis allé à son grand meeting Place de la République. Alors, Marcel, il a un axe fort, c'est la propreté. Ah, voilà, la propreté de Paris, c'est son truc. Clara, vous venez d'avoir 45 balais. Voilà, ben, Marcel, les balais, hein, ça le passionne. Il adore ça, vous pouvez l'aider. Allez, on y va avec ses soutiens, c'est parti. Ou plutôt, nous ébordille. Pourquoi elle est venue, cette dame?
Bah, parce que je l'aime. Je toujours... Voilà, c'est un homme adorable.
Ouais. Et dans ce qu'il a dit, alors, qu'est-ce que vous avez retenu?
J'ai rien écouté.
Ah, vous n'avez pas écouté?
Je n'écoute pas la politique, ça ne m'intéresse pas, je n'y comprends rien.
Mais vous étiez là et il a fait son discours.
Oui, mais même, j'ai rien entendu.
Et vous avez voté pour lui quand même?
Bah, heureusement, il ne manquera plus que ça.
Mais si ça se trouve, il a dit plein de conneries.
Non, impossible. Alors ça, c'est sûr que non.
Ah bon?
Il dit des conneries quand il a bu un coup.
Ouais. Alors est-ce que Marcel boit souvent des coups? Bon, ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il est bien entouré, il a une belle équipe de campagne. Par exemple, on a Bernard Bled qui est dans son équipe. Il a déjà travaillé, alors accrochez-vous, avec Pasqua, Chirac, Sarkozy. Autant vous dire qu'il a le même réseau qu'un maton à Fleury-Mérogis. Et Bernard, il a même travaillé avec Tibéri. Tibéri. Et il en garde un super souvenir.
J'ai été beaucoup sollicité par la police ou par des juges, ce qui était naturel.
Tibéri, vous avez voté les morts.
Oui, mais Tibéri, il a été condamné parce qu'on considérait qu'il était le bénéficiaire d'opérations qui n'étaient pas tout à fait légales. Mais on n'a jamais pu le convaincre lui-même d'avoir été à l'origine de ça.
Bon, ça veut dire que quelqu'un aurait fait ça pour lui faire plaisir ?
Probable. Probable.
Oh oui, c'est vrai, ça arrive. C'est comme ceux qui ont caché la feuille d'impôt de Patrick Balkany. C'est vrai que bon, bah voilà, c'était pour son bien. Il est allergique aux impôts. Il y en a, c'est le gluten. Bah, il y en a, c'est les impôts. C'est comme ça. En tout cas, Bernard, il est prêt à bosser avec Marcel.
Il a une image. Il a une stature. C'est quelqu'un. Voilà, il rentre dedans. Alors,
il dérape un peu parfois.
Oui, mais parce que c'est le cœur qui parle.
Oui, c'est le cœur. C'est le cœur, Marcel, c'est le cœur. C'est pas les synapses. Hein. Il se fait pas chier avec les synapses. Alors, par exemple, Marcel, il avait déclaré, bon, les propos polémiques qu'on connaît, à la mairie de Paris, les homos sont un peu pervers. Voilà. Là, c'était le cœur qui parlait. Hein. Clairement, c'est le cœur de Marcel. Eh ben, allons voir Marcel. Est-ce qu'il s'en souvient?
Non, c'était un petit groupe d'homos, malheureusement, il n'y avait que ça. Ils m'ont attaqué. Alors, bon, moi, je les ai ciblés. Ça aurait été des bouchers. J'aurais dit, c'est un groupe de bouchers. J'avais comme repère pour les voir, c'était trois PD.
Bah oui, PD c'est comme boucher, c'est pareil, il y a un CAP PD. Hein, voilà, renseignez-vous, c'est 2 ans dans le marais, t'apprends des chansons de Mylène Farmer par cœur, tu fais des trucs de PD, quoi, c'est comme ça. Et du coup, Marcel, il comprend pas bien ce qui choque.
Parce que j'ai dit le mot PD, et alors je continue de le dire. On mettrait Jean Gabin en prison maintenant parce qu'il a traité un bandit de jaquette et quoi. C'est une histoire de fou.
Est-ce que vous êtes le Jean Gabin de la capitale?
Pourquoi pas?
Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Reste à savoir, Jean Gabin, dans quel rôle, hein. Pour le gentleman d'Epson, bon, va falloir un petit peu bosser le côté gentleman, à mon avis. Mais Marcel, il assure qu'il n'est pas du tout homophobe, hein. Alors, comment Marcel connaissait la sexualité des gens à l'hôtel de ville?
Bah, parce qu'il le disait, il s'embrassait sur la bouche devant moi. Un jour, j'ai dit, va te cacher quand tu t'embrasses, t'es à l'hôtel de ville, t'es dans la maison du peuple ici.
Après, on n'a pas le droit de s'embrasser à l'hôtel de ville?
Non, pas pour moi.
Non, moi, je croyais que c'était la ville de l'amour, Paris.
Oui, Paris, ville de l'amour, mais pas pour entendre se tringler dans les couloirs, et surtout deux mecs.
Oui, voilà. Mais oui, surtout deux mecs. Hein, à la limite, hétéro, ça passe, mais deux mecs, c'est non. Il a raison, Marcel. Faut poser des limites, hein. Ça a commencé avec Douaneau et son baiser de l'hôtel de ville, et puis voilà. C'est sacrément parti en couille de Ouistiti, cette histoire. Et il y a des bonnes raisons pour lesquelles Marcel s'énerve de ça.
Parce que c'est dégueulasse, tu vois deux mecs en train de s'enculer dans la rue là. Qu'ils le fassent, ça me désole pas moi, c'est leur problème s'ils aiment ça. Mais pas devant toi.
Mais ils le font dans la rue vraiment?
Voilà. Non mais là, les têtes de ville, je les ai vus sur les dépelles. Je leur ai dit 2-3 fois, vous arrêtez les gars. Oh non, mais ils étaient 4 ou 5, un peu vicelards. Hein. On va aller au tribunal, ils vont l'avoir dans le cul.
Voilà, alors je rappelle que Jean-Marie Bigard a rejoint l'équipe de Marcel Campion. C'est pas une blague, là je crois qu'ils sont prêts, ils ont un bon attelage. N'oubliez pas son axe à Marcel, quand même j'insiste là-dessus, la propreté. Faudrait peut-être d'abord commencer par ce qui se passe à l'intérieur de sa tête.
C'est fini, là. Ça me laisse sans voix. Je veux dire, ça, c'est des propos qui tombent sous le coup de la justice, ça, normalement, non?
C'est, en tout cas, il assume, hein, parce que.
Je peux dire un mot là-dessus?
Bah, je vous en prie. Ouais,
je trouve que c'est vraiment très important de montrer ce genre de discours, parce que d'une part, je pense que la question de l'homosexualité, de l'affirmation homosexuelle est l'une des principes les plus importants de la civilisation. Mmh. Et que le mouvement gay est l'un des mouvements les plus importants qui doit être affirmé, soutenu, combattu pour. Hein, évidemment. Et je pense que, oui, bien sûr. Mais vraiment, il y a Bourdieu qui disait un mouvement que le mouvement gay devait être l'avant-garde du mouvement social dans son imagination, dans sa capacité à avoir changé les structures symboliques, les structures légales en très peu d'années, la culture, etc. Et je pense que c'est vraiment je sais pas comment vous dire, mais je pense que le rapport d'une société à l'homosexualité, c'est un peu un principe très important pour comprendre la modernité d'une société. Et autre chose, ce Marcel Campion, je pense que l'une des opérations fondamentales, on voit, il a l'impression qu'il est envahi de gays, qu'il y a des gays partout, que c'est eux qui dominent. L'une des stratégies fondamentales du pouvoir aujourd'hui, c'est toujours de faire passer les dominés pour des dominants qui dominent les dominants. Et c'est d'inverser totalement qui domine et qui est dominé. Et je pense que c'est très important de penser que la révolution symbolique qui est en cours aujourd'hui, on le voit avec les policiers qui se font penser pour un corfer, policiers en danger. On le voit sur Israël qui se fait toujours penser pour un pays en danger par rapport aux Palestiniens. On se voit par rapport à Trump qui va dire que les Mexicains envahissent et mettent en danger les États-Unis. On voit en France avec l'islam qui mettra en danger la République, etc. La droite, ça se définit par le fait d'inverser totalement la pensée de la domination en faisant passer les forts pour des faibles et les faibles pour des forts. Et je pense que c'est très important de dénoncer toujours ces opérations rhétoriques et d'affirmer les systèmes de domination et la nécessité de les soutenir.
Là, je pense qu'il n'est même pas à droite, il est à l'extrême de l'extrême droite. Là, c'est pas possible.
Moi, je pense que la droite pense ça. Je pense que c'est ça la droite. Et je pense qu'il n'y a pas d'extrême droite. Je pense que la droite extrême, c'est ça. Mais en fait, la droite, il n'y a pas d'extrême droite. C'est la droite qui est poussée à sa radicalité. C'est tout.
En tout cas, on a hâte que Marcel Campion soit invité à la matinale. Hein, parce que ça va être le grand 8. Hein, je pense que ça va être le grand 8. Vous écoutez France Inter. On va aborder un autre sujet. C'est la classe moyenne qui se sent doucement dévissée. Et ce n'est
c'est pas qu'une impression, c'est même un constat de l'IFOP, les fins de mois difficiles, les promotions discount et reniées sur les loisirs. À quoi correspond cette classe moyenne? Qui sont ces gens, donc, du milieu, qui se sentent décrochés?
On vend tout! Voilà. Faut qu'on vende la maison. Si, faut qu'on vende les louis d'or de ta mère. Il faut qu'on casse notre PEL. Et puis, il faut que je travaille.
Enfin, Fabienne, écoute, on n'en est quand même pas encore là. Hein?
Bah si. Les Martinet, qu'est-ce qui s'est passé? Ça leur est arrivé la même chose. Ils ont tout vendu. Et Françoise, elle a été obligée de travailler dans un cabinet médical où elle voyait des malades à longueur de journée.
Tu fais pas ci, fais pas ça. Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec, la série de France 2. Voilà, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. La classe moyenne. Est-ce que, Geoffroy de la Gannerie, dire la classe moyenne, c'est un peu comme dire le peuple, ce serait une abstraction, ou bien la sociologie a défini ce que c'était la classe moyenne, même si c'est une notion mouvante dans le temps?
Mais évidemment, je pense que la notion de classe moyenne est une grosse notion très problématique et qu'il faut se débarrasser. En fait, la catégorie de classe moyenne, elle a été forgée contre le marxisme. C'était un instrument de lutte contre le marxisme et contre la théorie bourdieusienne pour penser que les sociétés contemporaines n'étaient plus des sociétés de classe. Mais en fait, vous avez une forme de moyennisation de la société avec un grand cœur comme ça, avec quelques exclus et quelques très riches, et que entre la classe moyenne, il y a seulement des inégalités, qu'il faudrait corriger les inégalités, faire attention quand elles se déploient un petit peu trop. Mmh. Et en fait, la pensée de la classe moyenne a toujours été une pensée qui s'est fait contre une pensée en termes de domination, d'exploitation, de penser la pluralité des formes de la domination et de la souffrance. Et quand l'article du Parisien que vous mentionnez aujourd'hui dit, aujourd'hui on constate que des gens dans la classe moyenne ne peuvent pas partir en vacances, ne peuvent pas mettre leurs enfants aux études, sont obligés de faire attention de comment ils s'habillent, etc. En fait, plutôt que de dire que c'est une classe moyenne qui chute, il faut peut-être se poser la question de la catégorie de la classe moyenne, parce que si ça échappe à la catégorie, c'est peut-être que la catégorie est mauvaise et que précisément on n'arrive pas à penser
la
pluralité des systèmes de domination, le rapport à la ruralité, le rapport aux services publics, le rapport aux politiques publiques qui ont précarisé les gens dans le travail, dans le déplacement, l'essence, etc. Et je pense que le concept de classe moyenne, moi, c'est un concept dont il faut se débarrasser pour qu'il y ait une notion homogénéisante, qu'il y ait une notion fausse, en fait. Il n'y a pas une classe moyenne avec des exclus, il y a des affrontements de classes. Mm-hmm. Il faut penser la pluralité des systèmes de domination et c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe aujourd'hui.
Alors, il y a quelque chose de particulier chez vous, Geoffroy de la Gannerie, c'est on se dit comment vous positionnez-vous pour parler de ce sujet. Alors, vous êtes issu de la bourgeoisie.
Oui.
Vous appelez Geoffroy de la Gannerie. Alors
oui.
Ça, vous allez me dire, c'est pas votre volonté.
Non.
Vous êtes, comme vous expliquez, vous êtes né avec cette volonté qui vous a été imposée.
De toute façon, dans Starmania, j'ai pas demandé à venir au monde. J'aimerais seulement qu'on me fiche
la paix. Lycée Janson de Sailly. Bon, là, vous aviez encore un petit peu quand même le choix. Comment penser la réalité hors de soi? Comment vous faites dans votre travail? Est-ce que le témoignage est une base de votre travail? Comment vous pensez, vous réfléchissez les choses?
Ouais. Mais il y a une très belle idée de Achille Mbembe, qui est un théoricien contemporain que j'aime beaucoup, qui dit que quand on hérite de tout le monde. On n'hérite pas d'une partie du monde, on hérite de tout le monde. Et moi, mon histoire, elle est traversée aussi bien par l'exploitation, par la domination qu'on voit. Moi, je marche dans la rue, je suis comme tout le monde, je vois des clochards. Moi, je sais qu'il y a des crimes policiers. On peut parler de quand même de ce qui s'est passé dimanche de Ibrahima, à Villiers-le-Bel, qui est encore mort dans le cas d'une interaction avec la police. Encore une fois, après Guy Camara, après Adama Traoré. Enfin, c'est une histoire qui se répète. Bon, on est pris dans des systèmes de pouvoir qu'on est plus ou moins dominant dedans. Et le fait que nous avons conscience que ces choses se produisent. Nous avons conscience que nous sommes d'un côté ou de l'autre des systèmes de domination. Et moi, je pense que toute personne a conscience que le monde est injuste et qu'il doit être transformé et que c'est la moindre des choses de devoir lutter pour les transformer. Moi, je pense qu'en fait, les gens qui sont de droite ou qui sont conservateurs, c'est des gens qui inventent des raisons de continuer leur vie ou de conserver leurs privilèges malgré la réalité des systèmes de domination qu'ils ont devant eux. Enfin, ils sortent des restaurants, ils voient des clochards.
Ouais.
Et c'est pour ça que c'est souvent des gens mauvais ou méchants ou qui supportent pas la critique parce que ça les rappelle à leur mauvaise conscience. C'est une forme de reproche vivant par rapport à leur compromission permanente avec les systèmes de pouvoir.
Non, mais
et c'est pour ça que moi, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un effort de pensée d'être de gauche radicale. C'est quelque chose qui... Enfin, moi, je dis souvent que être de gauche, c'est évident quand on voit le monde. Il suffit de regarder la télévision, il suffit de marcher dans la rue, il suffit de prendre le train pour être de gauche radicale. Et de cette manière, la gauche, pour moi, c'est comme l'amour, c'est inexplicable. C'est ce qui est le point de départ de la vie.
C'est beau.
Et à partir de ce moment-là, c'est la droite qui doit être expliquée et combattue.
Ouais. Geoffroy de la Gannerie avec nous et Clara Dupont-Monod, vous êtes penchée sur le poche qui sort.
Et oui, nous recevons là un docteur S. Révolte, parce que l'actualité c'est la révolte. Je trouve toujours une actualité liée au livre, c'est important d'être connecté avec l'actualité. Et donc votre livre, L'art de la révolte, vient de paraître en poche, Geoffroy de la Gannerie. Votre ouvrage tourne autour de trois figures, il y a Snowden, Assange, Manning. Et vous dites, ils sont bien plus que des lanceurs d'alerte, ils sont les incubateurs d'une nouvelle façon de faire de la politique. Et la révolte en est le terreau. Alors, j'ai résumé à peu près, parce qu'il s'agit de résumer, voilà. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, a priori, on se dit, bon, bah, la révolte, en fait, c'est quelque chose de très simple. Il suffit juste de dire non. Non à la fiscalité écrasante, non à Harvey Weinstein, non au jeu de mots débile que Monoprix met sur les produits qu'on achète comme si on était des enfants de 3 ans. On se dit, bon, bah, je paye pas, je me déshabille pas et je n'achète pas. Sauf que ça, c'est une opposition. C'est-à-dire que l'opposition affirme un modèle contraire à celui qui nous est proposé, alors que la révolte, c'est beaucoup plus subtil. La révolte, c'est refuser d'obéir à une autorité. L'autorité que dénonçait Snowden, vous le montrez très bien, c'était la surveillance de masse. Il l'a repoussée. Il avait une question, je vous cite, « Comment redonner du sens à la notion de vie privée ?» Autre exemple, l'autorité qu'a rejeté Manet, que vous mentionnez également, c'était celle des vieux croulants de l'art académique. C'est comme ça qu'on disait. Et que vous débordiez sur l'art dans votre ouvrage, ce n'est pas anodin, parce que s'il y a bien une patrie des révoltés, c'est l'art en général, la littérature en particulier. Par exemple, Madame Bovary, de Flaubert, une sublime révoltée du silence, qu'est-ce qu'elle refuse, au fond ? Elle refuse la vie de famille, l'ennui provincial, et comme elle échoue, comme elle reste engluée dans sa petite vie, elle choisit l'ultime révolte qui est le suicide. C'est-à-dire que c'est une révolte face à l'absence de révolte. En fait, elle meurt de n'avoir pas pu vivre. Il y en a un autre qui se révolte aussi sans bruit, avec une force d'airain. Moi, c'est mon amoureux toujours, c'est Barthelby, le héros d'Herman Melville. Lui, il est employé de bureau, il déteste cette vie-là, il a horreur de ça. Et chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il répond une phrase très simple, il crie pas, il s'insurge pas, il dit juste « je préférerais ne pas ». Et la phrase c'est « I would prefer not to ». Et cette formule est restée comme la quintessence de la résistance passive, qui est une autre forme de la révolte. Parce qu'elle peut durer longtemps, la révolte. C'est son point commun avec une chronique d'Hippolyte Girardot. Et c'est sa différence avec la rébellion plus ponctuelle. Mais regardez cette émission qui a 5 ans, la révolte donc dure. Regardez aussi Tristan et Iseu. Ils s'aiment alors qu'Iseu est marié. Elle défie l'autorité conjugale. Ça s'étend sur des années. Et d'ailleurs, à un moment, ils basculent dans le statut de paria. Le paria et le révolté sont assez cousins. Notons souvent que le provocateur de révolte, je ne vous mets pas dedans, sont souvent ceux qui n'en ont pas besoin. Je rappelle que l'ancêtre de Guillaume Meurice, Robespierre, parlait au nom du peuple alors qu'il était avocat. Et c'est un peu comme ceux qui disent « la vraie richesse est de savourer l'instant présent ». Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas smicards. Reste que ces trois-là, Assange, Snowden et Manning, ils ont une spécificité. Leur attaque vise la scène politique elle-même, écrivez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, ils interrogent ce qu'il y a de non-démocratique dans nos démocraties. Mais en fait, exactement comme Madame Bovary, Paris interroge le rêve dans la routine, comme Barthelby interroge la liberté dans le travail, ou comme Tristan et Iseu interrogent l'amour dans le couple. Et donc vous voyez à quel point Assange, Snowden et Manning sont des personnages romanesques et à quel point leur révolte a une épaisseur littéraire. Je vous redonne les références. L'art de la révolte de Geoffroy de Laganerie est paru en poche chez Pluriel.
Merci Clara Dupont-Moneau. Hippolyte Girardot, ouais. Est-ce que ça vous dirait de comment est-ce qu'on pourrait dire
de continuer l'émission?
Ouais.
Par exemple. Un truc comme ça.
De soumettre Geoffroy de Laganerie au feu roulant de vos questions.
Ah le feu roulant. Ah oui, le feu roulant, ouais. Je sais. Oui, c'est Marcel. Alors, on va vous proposer un questionnaire de Proust à la sauce Jupiter. Vous êtes prêts?
Un par Jupi Proust.
Un quoi ?
Par Jupi Proust.
Voilà. Hello. Sur une échelle de 0 à 10, vous vous sentez Pascal Pro à combien ?
Je sais pas qui c'est.
Ah,
dans le 0 a priori.
Bravo, c'est la meilleure réponse.
Ok. Est-ce que la jalousie est de droite ?
Oui.
Est-ce que l'échangisme est de gauche ?
Oui.
À côté de quel tueur en série aimeriez-vous vous réveiller ?
Ah, Thierry Paulin.
Ah, attendez, mais moi j'ai oublié qui c'était.
C'était le tueur de vieille dame.
Ah, d'accord. Ah,
ouais. Chacun ses goûts. Si vous aviez le choix entre rouler une pelle à Robert Ménard et vous tirer une balle dans le genou, quelle arme choisiriez-vous?
Ah, 22 longs rifles.
C'est un tireur. Chez quel homme politique iriez-vous manger du homard?
Jean-Luc Mélenchon, avec plaisir, mon ami.
Oh bah ça, quelle partie de votre corps vous sert le moins?
Ouh.
Oh, yes, c'est
mon orteil droit.
C'est très précis. C'est très très précis, hein. C'est fantastique. Quelle figure politique aimeriez-vous croiser sur une plage naturiste?
Ah, Homme politique.
Oui, oui, j'ai dit une figure politique. Ah. Exactement. Pour suivre un peu, parce que c'est précis.
Ouais, c'est très difficile. Je sais pas.
Allez, autour de la table, on peut.
Le choix est énorme, hein. C'est ça que vous voulez dire?
Ouais.
Vous avez envie de choisir beaucoup de personnes sur le plan naturiste.
Jean-Jacques Goldman.
Non, c'est pas
des politiques.
Bien sûr qu'il est politique,
Goldman.
Moi, Raymond Barre, ça m'aurait fait marrer.
Bah oui.
Bon, ouais. Bah chacun, c'est tout.
Non, mais moi je pensais plutôt à un beau gosse.
Bah voilà.
Ah, il y a des beaux gosses en politique. Jean-Jacques Goldman.
En figure politique.
Oh, mais quelle insiste,
Mais non, mais.
Allez.
Oui, Geoffroy Didier, parce qu'il fait un petit peu mannequin la redoute dans les pages pour les slips.
Ça, bon. C'est ton choix. Hein.
Et Obama, les mecs.
Ah oui, évidemment. Ah oui, je pensais aux Français, moi. Bon, ouais, Obama, carrément.
On peut savoir pourquoi Geoffroy, l'invité, ne peut pas dire son choix. C'est quand même spécial.
Je ne le trouve pas.
Bon, c'est pas grave. Voilà, très bien. Mais très bien que vous me disiez.
Une dernière.
Si vous deviez être un mot du dictionnaire, vous seriez lequel?
Ah, Demain.
Oh, c'est beau. Voilà.
On dirait du Benoît Hamon.
Ah, c'est dégueulasse.
Oh, vous allez me le fâcher juste à la fin de l'émission. Geoffroy de la Gannerie, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Chers auditeurs, si vous avez aimé la teneur de cette conversation, vous aimerez beaucoup La conscience politique, parue chez Fayard, collection à venir, et comme l'a rappelé Clara Dupont-Monod, également L'art de la révolte, en parlant de Snowden, Assange, Manning, paru en poche. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Thomas Bidguin, Clara Dupont-Monod. Merci Guillaume. Merci beaucoup Hippolyte Girardot.
Merci Charlie.
On se retrouve demain. Nous passerons une heure en compagnie du réalisateur Christophe Honoré, que nous avons invité pour la première fois, comme tous nos invités.
Hein. Historique, il est maintenant.